La seule fois où j'ai vraiment entendu parler de l'Europe, c'était quand il y avait le référendum. En fait, ma première connexion avec l'Europe, c'était déjà avec le prisme questionnement sur est-ce qu'on veut en être ou pas, quoi.
Cela fait longtemps que j'ai envie de vous partager cette interview et je ne vous cache pas mon plaisir de la diffuser aujourd'hui. Avec Ayat, nous nous sommes rencontrés il y a un moment maintenant, le 22 mars 2022. À l'époque, j'avais en tête de creuser le sujet de l'identité européenne et des banlieues. Et puis, il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine et j'ai complètement changé de plan. Mais cette interview, particulièrement, m'est restée en mémoire. Et je savais qu'à un moment ou à un autre, je vous la partagerai. Ce 22 mars, Ayat m'a reçue dans son bureau, à la mairie de Trappes, où elle travaillait à l'époque. Trappes est une ville moyenne de 30 000 habitants dans le département des Yvelines, à 30 km de Paris. Pour y accéder, vous prenez une des deux lignes de TER depuis la gare Saint-Lazare ou celle de Montparnasse. Un voyage qui vous semble long, voire assez interminable. Pour vous donner une idée, on est à peu près sur la même durée qu'un Paris-Lille en TGV. En arrivant sur la place de la mairie, vous êtes accueilli par la statue de Jean Jaurès. Cette ville a une longue tradition de gauche. Mais Trappes, c'est surtout la ville où Ayat est née, où elle a grandi et où elle continue d'habiter. Trappes, c'est aussi le symbole de tout ce qui fait qu'elle ne se sent pas appartenir à l'Europe. C'est loin, trop loin. Je m'appelle Laetitia Chaban et vous écoutez Europe et sentiments. Ayat, portrait d'une trappiste, partie 1.
Père ouvrier, mère au foyer, je suis un peu finalement, j'ai pas les clichés, mais un peu, voilà, je n'ai rien d'exceptionnel hein, sur ce côté-là. En tous les cas, par rapport à l'ensemble des trappistes, on a quand même, voilà, je suis loin d'être unique. Je suis issue de l'immigration, puisque mon père vient de la première génération de l'immigration marocaine, du nord du Maroc plus spécifiquement. J'avais à peu près 14-15 ans lorsqu'il y a eu la révolte des banlieues, ce qu'on appelle la révolte des banlieues. On a eu quelques scènes un peu dramatiques ici à Trappes. Et moi, dans mon lycée, j'avais notamment un gardien qui est décédé en essayant d'éteindre un feu qui avait été fait, donc un feu, un départ d'incendie volontaire hein, dans les locaux du lycée. Et donc, suite à cela, on a eu... pas mal de... Bon, on avait déjà beaucoup de visibilité médiatique pour le... Pas forcément pour le meilleur, mais là, on en avait eu encore plus. On a eu notamment la venue de certaines personnalités politiques. Et suite à cela, à Trappes, mais tout comme dans plein de villes, hein, pour rappel, c'était quand même, ça avait quand même émergé des suites de la mort de Ziad Ebouna. Il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été lancées au niveau de l'État ou qui s'est rendu compte qu'il y avait un sujet, effectivement, sur les banlieues. Et donc, ils ont notamment lancé des programmes du type, je dirais pas de discrimination positive, mais en tous les cas, ce qu'on appelait les dispositifs d'égalité des chances. Et donc, j'ai fait partie des premières à pouvoir en bénéficier via un partenariat entre mon lycée et HEC. À l'époque, HEC, personne ne savait ce que c'était, mais voilà. Et donc, c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi. Et voilà, donc ça, c'était le début de mon parcours, on va dire, dans ce monde de l'égalité des chances, où globalement, hein, c'était repérer les gens qui se débrouillaient déjà bien, on va pas se mentir, et essayer de les accélérer. Souvent, on parle de la banlieue. Moi, je dis toujours qu'il y a des banlieues. Moi, quand je croisais des gens qui viennent de Seine-Saint-Denis, ça n'a rien à voir. La Seine-Saint-Denis, pour moi, c'est Paris, en fait. D'ailleurs, étymologiquement, le mot banlieue, c'était une zone au Moyen-Âge qui était en périphérie des villes et sur laquelle était exercée une autorité forte. Et ban, ça vient quand même, c'est la même racine que le mot bannir, etc. C'est tout, voilà, c'est autour et c'est quelque chose qui est à part. L'appréciation des banlieues au sujet de l'Europe, je me porte pas comme étant porte-parole des banlieues ou représentante du collectif des banlieusards. Je peux donner juste moi mon appréciation personnelle et peut-être ce qu'il en ressort des échanges, ou plutôt du manque d'échanges sur ce sujet avec mon entourage. C'est que clairement l'Europe, c'est pas du tout. J'espère que ça n'a pas trop gâché le podcast, mais c'est pas du tout un sujet en fait. On n'y pense pas, on n'en parle pas. Il y a des préoccupations fortes, locales, qui font que pour beaucoup d'entre nous, l'Europe, c'est du luxe en fait de pouvoir y penser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un sujet, bon. C'est un sujet d'intellectuel, quoi. C'est un sujet de quand ton frigo il est plein, quand t'as déjà un job, un toit sur la tête, et que t'es déjà dignement considéré dans ta citoyenneté française, en fait. Et j'ai l'impression que, alors que c'est pas forcément logique, hein. Parce qu'on pourrait se dire on peut se sentir européen sans se sentir français, par exemple. On pourrait se sentir... Enfin, il n'y a pas de chronologie, en fait. Mais le fait est qu'en pratique, si. Quand les besoins, entre guillemets, les besoins sociaux basiques ne sont pas forcément adressés, oui, l'Europe, ça nous paraît être... voilà, quoi. Des gesticulations intellectuelles... Et peut-être à tort, très, très certainement à tort, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on pense qui impactent, enfin qui ont été décidées au niveau européen, qui impactent notre quotidien. Mais force est de constater qu'à chaque fois qu'on entend parler de l'Europe, je parle des médias traditionnels, parce qu'au final, vous le disiez vous-même tout à l'heure, il y a très peu de littérature sur le rapport entre les banlieues et l'Europe. Donc ça veut bien dire que finalement on leur donne pas forcément la parole, il n'y a pas des endroits où on discute de l'Europe dans les banlieues. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné on crée pas ces espaces de dialogue, de réflexion. Et donc finalement, mécaniquement, le seul moment où les banlieusards peuvent en entendre parler, c'est à travers les médias traditionnels. Okay. Et sur les médias traditionnels, qu'est-ce qu'on entend à chaque fois ? Enfin, quand on élimine les moments où il y a des élections, les moments où il y a des pandémies ou des guerres, ben, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, en fait, mis à part aussi, de manière ponctuelle, des histoires d'affaires, des histoires de députés européens qui prennent de l'argent. Voilà, donc en fait, finalement, en termes d'image, ce qui vient jusqu'à nos oreilles, ce qu'on entend, ce n'est pas forcément... très glorieux, quoi. Et c'est jamais dans... on n'est jamais dans la participation citoyenne, on n'est jamais dans qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que... Voilà, donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des taux de participation aux élections européennes qui sont catastrophiques. Déjà que les taux de participation dans les quartiers populaires pour les élections municipales... je veux dire, les élections locales, déjà, c'est pas top. Alors, pour européennes, vous doutez bien que quand on ne comprend pas quelle est l'utilité et l'urgence, on ne se déplace pas. L'Europe, ok, c'était un peu genre les Avengers de l'époque qui se sont dit on va se mettre ensemble et... mais je vais dire à un moment mis à part quelques consultations par-ci par-là, je pense qu'on n'a pas suffisamment marketé, si je peux me permettre, le truc, en fait. Et j'ai toujours été assez étonnée sur le manque de sérieux, ou plutôt le manque de travail qui a été fait, le manque de travail pour justement séduire ces foules pour un sujet si important, alors qu'on le fait pour du dentifrice. Je ne sais même pas qui travaille à l'Europe, c'est où l'Europe ? C'est où ? Là, par exemple, vous dites à quelqu'un l'Europe, parce que c'est tout bête, hein, mais ici, vous demandez à quelqu'un quel est pour lui le lieu de rencontre avec l'État, il va vous dire la mairie. D'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, on a des gens qui se pointent au service parce qu'ils ont besoin du contact. Et en fait, l'Europe, les gens ne savent pas où. C'est où ? Je peux y aller ? Je peux les contacter ? On ne sait pas. On a l'impression que c'est un truc flou ou des gens dans une tour loin. Et en fait, c'est tout bête, mais rien que ça, déjà, pour beaucoup de gens, c'est... on n'arrive pas à se matérialiser les choses si matériellement, justement, on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir. Alors on sait, parce qu'on l'a appris en des cours d'éducation civique, où ok, il y a la Commission européenne, il y a le Parlement, même si on ne comprend pas trop exactement la différence, on sait qu'il y a de... Voilà, mais du coup, ok, ils sont à Bruxelles, Strasbourg, mais sinon, ils sont où ici? Donc en fait, si finalement vous êtes nulle part physiquement, vous êtes nulle part dans la tête des gens, en fait, pour eux, vous n'existez pas. Et pour beaucoup de gens, moi, on se demande, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font les députés européens? Et pour ceux qui connaissent un petit peu, qui sont un petit peu politisés, on sait très bien aussi que même en termes de... Alors on sait que c'est très fermé. C'est-à-dire que demain, vous avez envie de travailler la Commission européenne, bon courage. Donc il y a même ce sujet-là. Et puis on sait aussi que les députés européens, c'est un peu l'image de, voilà, de gens un peu quand même planqués, hein, où c'est un peu peinard, ils sont dans leur truc, ils ne sont pas forcément au contact du public. En fait. Et donc du coup, encore une fois, ça ne donne pas forcément une bonne image. On se dit, c'est des gens dans une bande d'intellectuels qui décident un peu de trucs, mais on ne sait pas trop exactement quoi. On ne sait pas exactement qui il y a, mis à part, voilà, si vous allez vraiment rechercher, il n'y a pas un événement phare qui pourrait démocratiser un peu ce que c'est que la Commission européenne. Y a pas de, en tout cas, à ma connaissance, c'est jamais arrivé jusqu'ici. Et du coup, voilà, ça entretient une espèce de flou. Et comme on dit, quand il y a un flou, quand il y a du flou, il y a un loup, quoi. Et donc, les gens, je pense, ont un rapport au mieux d'indifférence et au pire, je dirais, de méfiance vis-à-vis de cette institution. On se dit, mais à quoi ça sert, quoi?
À quoi ça sert, l'Europe? Cette question, je l'ai souvent entendue dans mes interviews, dans les rencontres ou dans les débats que j'ai pu mener. On a souvent une vision assez utilitariste de l'Europe. Il faut qu'elle nous apporte quelque chose, sinon, à quoi bon? Et j'aime bien cette question, parce que, justement, je ne veux pas y répondre. J'ai plutôt envie de faire un pas de côté. Parce que pour moi, a-t-on vraiment besoin de connaître son utilité pour se sentir européen? Je n'en suis pas si sûre. En revanche, elle est où l'Europe? C'est qui l'Europe? Là, je suis d'accord. Europe et sentiment est d'ailleurs né de cette envie de parler d'Europe différemment, de remettre des histoires et des récits personnels et intimes. Et je vous invite à continuer l'écoute de ce portrait singulier dans sa deuxième partie. Europe et sentiment est un podcast indépendant et j'ai besoin de vous pour le faire vivre et le faire grandir. Si vous avez aimé, partagez-le autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos collègues de bureau, à vos proches. Vous pouvez vous abonner à notre page Instagram ou à notre newsletter, laisser un commentaire sur Spotify ou encore mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cet épisode est un hors-série. Il n'appartient à aucune saison. Un peu comme un électron libre si vous voulez. Mais aucune inquiétude, la saison 3 est en cours de préparation pour une sortie prévue début 2024. Écriture, montage et réalisation, Laetitia Chaban. Musique, Arnaud Paskevitch.